Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bonsoir, merci d'être avec nous. On est dans l'émission À votre avis, l'émission avec les auditeurs de VOA Afrique. Et ce soir, je suis en compagnie de Michel Joseph à la réalisation. Moi, c'est Abdourahmane Dia. Alors aujourd'hui, on va parler de la communication en temps de crise. Le continent africain est miné par plusieurs crises, sécuritaires notamment. Du Sahel au Grand Lac, en passant par la Corne de l'Afrique, et si le public réclame son droit à l'information, les gouvernements et les autorités militaires mettent souvent en avant une politique de communication plus stricte sur ce qui se passe au front. Alors, comment assurer l'équilibre entre le droit à l'information et la nécessité de protéger ces informations sensibles? Comment établir la confiance du public envers donc les autorités et sur les informations qu'elles donnent? Nous allons aborder ces questions avec nos auditeurs. Nous avons un premier auditeur en ligne. Je dois également signaler que nous avons en ligne Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique, qui a couvert plusieurs crises, notamment le Mali, l'Est de la RDC et d'autres crises sur le continent. Alors, avant de retrouver Idriss Fall, nous avons déjà un auditeur en ligne de Yamoussoukro, Youssouf Ouattraogo. Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane Dia, bonsoir à toute l'équipe de VOA Afrique, aux auditeurs et auditrices.
Alors, c'est un thème assez, disons, qui suscite aussi des commentaires. On est dans une situation de crise. Quel est le droit à l'information du public? Jusqu'où ça peut aller? Où ça doit aller?
Abdourahmane, moi je crois qu'il y a quand même, il y a très clairement un fossé qui s'est créé au fil du temps depuis l'avènement des nouvelles technologies de communication, de l'information, notamment les réseaux sociaux, entre d'un côté l'orientation de l'information conditionnée pour tenir compte justement de toute sensibilité et de l'autre côté la désinformation très souvent à titre d'intérêt personnel. Alors c'est encore beaucoup plus délicat en temps de guerre où le caractère sensible de certaines informations force l'extrême prudence et de la retenue. Alors aujourd'hui, les gouvernants n'ont plus le monopole de l'information comme c'était le cas par le passé. Et cela ne veut pas non plus dire que toute information est consommable sans retenue. Alors pour l'autorité publique, je dirais que lorsqu'on veut protéger une information, il faut déjà pouvoir minimiser les risques de fuite, ce qui n'est pas gagné d'avance de nos jours. Et je pense que la meilleure façon d'assurer l'équilibre entre donc le droit et le devoir en général, le droit à l'information et la nécessité de protéger justement les informations sensibles qui restent en particulier un détail et un défi de taille, c'est d'être dans une sorte d'action d'adaptation, c'est-à-dire d'accord, prendre les devants des choses. Alors, en période de crise...
Mmh. Oui. Youssouf, restez avec nous, je vais introduire Idriss Fall. Idriss, bonsoir.
Bonsoir Abdou et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Alors, Youssouf parlait un peu de cette nécessité quand même de protéger les informations sensibles, d'autant plus qu'on est dans le cas par exemple du Sahel ou de l'Est de la RDC, dans une guerre, dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique.
Oui, mais Abdou, il faut dire que dans toutes les guerres, quelqu'un l'a dit, la première victime, c'est la vérité. Je parlerai d'une expérience que j'ai vécue dans l'Est de la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. J'étais en train de couvrir la rébellion de l'AFDL, du père Kabila, Laurent Désiré Kabila, et j'avais accompagné les rebelles jusqu'à la prise de la ville de Uvira. Quand j'ai rapporté sur les zones de la Voix de l'Amérique que je me trouvais à Uvira avec des rebelles qui étaient en train d'avancer vers Bukavu, à Kinshasa, qui était à 2000 km, le gouvernement de Mobutu Sese Seko mettait sur les zones que ce que je disais n'était pas vrai, que je n'étais même pas au Zaïre. C'est un peu te montrer comme exemple que dans les guerres, la vérité est la première victime. Je ne peux pas en citer d'autres, Abdou.
Ouais, il y a aussi on parle beaucoup de conflits même impliquant disons des pays occidentaux où la gestion de l'information n'est pas toujours évidente.
Mais ça, par exemple, actuellement, ce qui se passe entre Israël et le Hamas, les deux sources sont complètement divergentes. C'est le Hamas qui donne les chiffres du nombre de morts à l'intérieur de la bande de Gaza. Israël donne les chiffres du nombre de morts à l'intérieur d'Israël. Qui a raison, qui a tort? Les journalistes ont une très petite, faible marge de manœuvre là-bas, parce qu'on n'a même pas accès à la bande de Gaza. Ça, c'est un. Si on se rappelle encore plus récemment, pendant la guerre en Irak, tous les jours, on avait des bilans du nombre de soldats américains tués en Irak. Et nous, on connaissait par d'autres agences que le nombre d'Irakiens qui ont été tués dans des bombardements aveugles. C'est pareil aussi pour l'Afghanistan. On connaissait exactement, on publiait tous les jours le nombre de soldats américains tués en Afghanistan, mais on ne savait jamais combien d'Afghans sont morts sous des bombardements américains. C'est ça, d'accord, en fait, la guerre. Et même si on remonte jusqu'au Vietnam, je pense que la presse a joué un rôle extraordinaire à prouver que quand même il y avait des choses pas très catholiques qui se faisaient au Vietnam. Mais ça, quand même, je pense que la presse a subi beaucoup de pression pour qu'elle n'ait pas à publier ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, généralement, c'est très, très difficile pour les journalistes quoi, en temps de guerre.
Alors, Youssouf, si vous êtes toujours avec nous, comment est-ce que vous triez tout cela entre ces informations qu'on reçoit via les réseaux sociaux et celles qu'on reçoit des médias traditionnels? Et entre les deux, il y a bien entendu le mot des autorités qui tiennent aussi à contrôler le narratif, comme on dit.
Alors, moi, je crois qu'il est important quand même de savoir qu'en période de crise, l'action de l'information est toujours déterminante comparée à toute action, toute réaction à l'information. Alors, on entend très souvent dans ce cas de figure-là parler de propagande. Et en période de crise, on n'est jamais assez fort en étant en mode défensif à subir les coups de la crise. Alors, je pense que pour la confiance, il est toujours nécessaire de créer un narratif cohérent à l'aide de sensibilisation qui illustre le sérieux des actions menées contre la crise. Maintenant, pour revenir au droit à l'information, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la loi et l'esprit de la loi, le droit et l'esprit du droit. Il est important de savoir que les crises majeures comme la guerre constituent en soi-même une restriction grave des libertés. Ce qui se passe d'inacceptable pour moi, c'est que les restrictions administratives, donc légales ou légitimes, sont très souvent frappées d'abus, et trop d'abus finit par créer les conditions, n'est-ce pas, d'une dictature féroce qui finit toujours souvent en larmes, comme il a si bien dit. Et la première des premières victimes de l'information dans ce cas de figure-là, c'est toute évidence la vérité.
Voilà. Merci beaucoup, Youssouf. Fidèle auditeur depuis Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Alors, on va écouter un message laissé sur notre répondeur WhatsApp. Je crois qu'il est de Accenti, depuis Bukavu, RDC.
Bonjour la famille, bonjour VOA Afrique. Entre le concept de soit laisser l'information ou la filtrer, je crois qu'il y a surtout la désinformation qui a le vent en poupe. Donc je pense qu'une action citoyenne, ce serait surtout d'essayer d'avoir la bonne information, essayer de la disséquer, essayer de la discuter avant de la partager. Donc par rapport à savoir s'il faut passer l'information ou pas, moi je pense que les gens qui sont sur le terrain, qui sont dans les terrains là où il y a justement les affrontements, ils peuvent aussi faire une chaîne pour donner leur point de vue dessus. Merci bien à vous, Jean-Louis depuis Kigali au Rwanda.
Voilà, vous avez rectifié de vous-même, c'était Jean-Louis depuis Kigali, la capitale rwandaise. Alors Idriss Fall, cet auditeur parle vraiment de la responsabilité de tout un chacun et de l'importance même de trier l'information à son niveau. Mais est-ce que c'est facile de nos jours et quel doit être le rôle des médias traditionnels?
Les médias traditionnels, si je prends le cas de pays qui sont plus ou moins en guerre actuellement, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, dans une certaine mesure le Tchad, le Nigeria, dans tous ces pays, les États ou bien ceux qui sont au pouvoir sont confrontés à soit des groupes islamistes armés ou bien des formes de rébellion. Mais partout, d'abord pour le Mali, c'est un pays très vaste. pour que les journalistes puissent quitter Bamako et aller à Kidal, c'est presque impossible, parce que enfin, le terrain est miné, les groupes djihadistes sont un peu partout. C'est pareil pour le Burkina Faso, où l'État ne contrôle pas une bonne partie du territoire burkinabé. Donc, pour les journalistes, c'est très, très difficile d'accéder à l'information. Quand ce qui s'est passé à Djibo dimanche dernier, où il y a des djihadistes sont entrés en ville et ont tiré sur des gens, les journalistes qui sont à Ouagadougou, ils n'ont pas accès à ça. Ils n'ont qu'une seule source, c'est les autorités de transition qui ont balancé une vidéo pour dire que oui, on a fait ceci, on a fait cela, mais ils ne donnent pas de bilan. Et que les journalistes de tous ces pays, de plus en plus, ont pratiquement peur. Ils sont censurés, ils s'auto-censurent parce que, en fait, ils reçoivent même des menaces si jamais ils essaient de dire ce qui s'est passé dans le terrain des opérations. C'est extrêmement difficile d'être journaliste dans un pays en guerre. Parce que l'État qui mène la guerre veut que les journalistes aient un discours patriotique soutenant les efforts de l'armée, et les journalistes ne sont pas connus pour accompagner les États ni accompagner les groupes rebelles. C'est donner les informations vérifiées et c'est extrêmement difficile. Maintenant, si à cela s'ajoute, maintenant tout le monde a accès à Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, je ne sais pas comment vous les appelez, les réseaux sociaux, machin. Donc les gens postent tout et n'importe comment, n'importe quoi. Toutes les images que tu vois, des vidéos, tu ne sais même pas d'où ça vient et on attribue. Donc tout ça pour faire des trucs de désinformation. Donc et tout le monde subit les effets dévastateurs. Et d'accord, parfois c'est très très difficile, Abdourman, pour vérifier tout cela.
Alors Idriss, on va écouter un autre auditeur. Il s'agit de Djotohou. Il est à Lomé au Togo.
Bonjour, bonsoir la VOA Afrique. J'aimerais intervenir par rapport au sujet des informations, bien de l'information en temps de crise dans nos pays. Oui, ce qui gâche l'affaire est qu'il y a des médias de propagande qui arrangent les Occidentaux. Donc nous sommes obligés de nous fier aux informations venant de la part des réseaux sociaux. Et même nos médias nationaux aussi louent les chefs de l'État ou bien ne dites pas la véracité de la chose. Par exemple, je prends le cas camerounais la fois passée, où les gens sont morts au stade. Le communiqué officiel a dit 37 morts. Or, sur les réseaux sociaux, nous entendons 67 morts. On choisit lequel? Et moi, je sais que c'est 67 qui est le vrai. Parce que tous les chefs d'État africains, quand quelque chose se passe, on ne veut pas dire, bon, il y a eu 100 morts, par exemple, maintenant. Ils ne veulent pas dire, ils vont pas dire 100 morts, ils vont dire 20 morts, 25 morts, 50 morts. Pour pouvoir couvrir leur lâcheté, leur médiocrité. Maintenant, les militaires au pouvoir, eux, ils restreignent l'information. C'est-à-dire, c'est des gens, ils veulent que l'information reste dans le pays et que ce soit des vraies informations. Moi, je ne suis pas contre eux. C'était Roméo Djotohou depuis le Niger. J'en ai fini. Merci bien. Bye.
Alors, Djotohou, Idriss parle un peu de, disons, il remet en cause la crédibilité de certains médias, il parle des médias occidentaux, de certains médias occidentaux en tout cas, et il dit comprendre un peu l'attitude des militaires au pouvoir. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire?
Idriss, allez-y. Moi, je peux dire, il y a médium qui est partout 24 heures sur 24 en Afrique, qui s'appelle Radio France Internationale, qui est un de mes principaux concurrents sur le terrain, mais je ne peux pas juger le travail que fait RFI sur les
ondes. Oui, on n'est pas là pour juger qui que ce soit.
Maintenant, je sais qu'il y a aussi la BBC, il y a la Deutsche Welle, il y a plein de radios internationales, mais je ne peux pas dire quel est le degré d'affiliation de ces journaux avec les pouvoirs dans ces pays-là. Ça, je ne peux vraiment pas en juger.
Mais quel devrait être le rôle des médias traditionnels de façon globale face à cette remise en cause? Parce que cette remise en cause, elle est réelle, c'est une réalité, à tort ou à raison. Que devraient faire les médias traditionnels, surtout occidentaux, pour, disons, continuer à avoir la confiance du public? C'est un débat légitime aussi.
Ça, je suis entièrement d'accord, mais... généralement la manière dont les pays anglophones sont organisés par rapport à la liberté de la presse, c'est légèrement différent des pays latins. Et si je dis latin, donc tous ces pays, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, où réellement, parfois, le journaliste aussi glisse des points de vue qui sont éditorialistes, qui n'ont rien à voir avec les faits. Alors que dans la presse anglophone, généralement, on principalise de donner les faits et on se garde de donner son commentaire à soi. Le commentaire, je peux, quand je sors, je vais au restaurant, en parler avec les copains. Mais donc, c'est une différence fondamentale entre ce que je peux appeler la presse latine et la presse anglo-saxonne dans le traitement de l'information.
Avant de retrouver un auditeur qui a laissé un message sur WhatsApp, dites-nous un peu, quand cet auditeur Diotou dit qu'il comprend un peu l'attitude des militaires, il y a aussi, surtout certaines ONG qui critiquent ce qu'elles appellent des lois liberticides. Il y a un équilibre à faire. Vous, en tant que journaliste, comment est-ce qu'on devrait travailler dans ce contexte, surtout en pensant à nos collègues qui sont sur le terrain et qui peut-être courent des risques aussi?
Les gens qui sont au pouvoir, qu'ils soient militaires ou pas, n'aiment pas que les journalistes fassent leur travail et disent ce qui se passe dans les pays en guerre ou pas. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Donc c'est pourquoi la plupart des médias dans tous les pays africains, c'est des médias qui marchent au service de l'État. Les radios nationales appartiennent au gouvernement. Les télévisions nationales appartiennent au gouvernement. Tu ne peux pas utiliser un mot de travers pour critiquer Alassane Ouattara à la télévision nationale. Tu ne peux pas faire ça pour critiquer Macky Sall sur la télévision et la radio nationale. Tu perds ton boulot tout de suite. Alors, je ne sais pas, je peux, ici aux États-Unis, quand même, les journalistes ont le droit de critiquer Joe Biden, de critiquer, mais il faut que ce soit prouvé ce qu'ils disent. Mais en Afrique, le statut de la presse, c'est que la presse est inféodée à l'intérieur des États, et c'est pour quand même la PANA, l'ancienne agence panafricaine, n'a pas marché. Parce que le journalisme ne voit pas avec l'inféodation dans un système politique ou économique. Non, ça ne marche pas. Le journalisme, pour être indépendant, doit se donner les moyens de son indépendance. Donc c'est ça aussi une autre faiblesse de la presse en Afrique. Les journaux n'ont pas de moyens. Donc si tu sors d'une grande école de journalisme pour pouvoir avoir à manger, c'est d'aller bosser pour la télévision nationale où tu marches sur ordre. Il faut ouvrir le journal de 20 heures avec les réceptions du chef de l'État. Le chef de l'État a reçu hier Mme Alexandrine Orognon qui était passée ici à Machin. Donc voilà.
Oui, c'est des journalistes. Je dois saluer le professionnalisme de nos collègues qui sont en Afrique. Nous-mêmes, nous venons de là-bas. Alors, nous avons un autre message. Un auditeur, c'est ça? Jonas, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. C'est moi de votre côté.
Oui, merci beaucoup. Vous nous appelez de Kinshasa. Alors, quel est votre point de vue sur le débat du jour?
Oui, moi je pense que pour les problèmes de la communication dans les temps de la crise, c'est que les autorités, il faut que les autorités puissent laisser les journalistes travailler, effectuer leur travail correctement comme il faut, parce que nous constatons que surtout dans les pays où il y a eu les coups d'État, il y a eu manipulation des journalistes, donc il y en a d'autres qui sont arrêtés et les journalistes n'ont pas accès à toutes les informations. Les journalistes n'exercent pas vraiment leur travail comme il faut. C'est pourquoi il faut que les autorités puissent laisser les journalistes faire leur travail comme il faut. Et par après, les journalistes saura quoi communiquer qui sera une bonne chose, qui ne détruira pas la sécurité du pays, et aussi ce qui ne peut pas créer des troubles dans les pays. Comme au Burkina Faso, on avait vu, il y avait un journal qui avait publié quelque chose qui avait troublé l'armée. Et aussi, il faut que les journalistes puissent aussi exercer son travail comme il faut.
D'accord. Merci beaucoup, Jonas Sipadi. Alors, on a un auditeur en ligne, peut-être, avant de passer au message WhatsApp. Voilà, on écoute un message WhatsApp.
Bonjour la VOA, c'est Fernandez Toyou depuis Sokodé au Togo. Bien, concernant le sujet de ce mercredi, moi je pense que l'information, la communication en temps de crise est un sujet très fondamental, voilà, en Afrique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sous notre pic, l'information vraiment n'est pas aussi ce qu'on voudrait. Voilà. Lorsqu'il y a une situation dans un pays comme le mien, je parle du Togo. Maintenant, par exemple, le Togo est fait face à des attaques terroristes depuis pratiquement 2 ans, disons bientôt 3 ans. Mais personne ne vient vous dire quoi que ce soit. Et tout se passe sur les réseaux sociaux. Et aussi, ce qui est encore plus grave, vous allez voir que les journalistes n'ont pas aussi une certaine latitude pour travailler par rapport au sujet. Voilà. Quand il plaît aux autorités, ils viennent vous dire ce qu'ils veulent. Voilà. Alors qu'il faut ça pour que les gens soient rassurés. Il faut ça pour éviter cette tension-là qui naît souvent suite à de fausses informations relayées par les réseaux sociaux, etc. Voilà. Quand on donne la bonne information, on coupe comme ça cette chaîne de rumeurs là qui pourrait courir sur les réseaux sociaux. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons en ligne Accenti Olivier depuis Bukavu. Accenti, bonsoir.
Bonsoir, VO Afrique. Bonsoir à tous les auditeurs de VO Afrique.
D'accord. Alors, votre point de vue sur le débat du jour?
Oui, en rapport avec le débat de cette soirée, moi, je pense que pour assurer l'équilibre entre les droits à l'information et la nécessité de protéger des informations sensibles, peut-être un défi complexe, mais il est essentiel pour maintenir la confiance publique dans les informations fournies par les officiels. Alors, pour ce faire, voici quelques suggestions que personnellement je peux proposer. La première.
Ah, on a malheureusement quelques soucis avec la connexion. Voilà, donc on va rapidement écouter Sena Dodji qui nous a laissé un message sur WhatsApp.
Bonsoir la VOA Afrique et bonsoir à tous les auteurs de la VOA Afrique. C'est M. Sena Dodji Kwadjo depuis Togo le même. À mon noble avis, je pense que l'information et la sécurité, ce sont deux amis, je peux dire même deux collègues. Une armée bien informée, c'est une armée qui réussit sa mission sur le terrain. Un peuple bien informé, c'est un peuple qui travaille en collaboration avec son armée pour combattre l'insécurité. Surtout dans cette période d'insécurité, je pense que l'information est un outil très, très, très important pour la population africaine et pour les armées africaines. Mais pour les informations sensibles, on ne peut pas communiquer toutes les informations à l'armée ou bien à la population. Donc les informations sensibles, ce sont des données confidentielles, je peux dire des données confidentielles qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc l'information dans cette période de crise et de sécurité en Afrique est très importante et doit être accessible à toute la population africaine pour combattre l'insécurité en Afrique. God bless, peace Africa.
Voilà, merci beaucoup. Alors, Idriss, on va terminer avec vous. En une minute un peu, quel enseignement peut-on tirer de ce débat avec tous ces éditeurs quand même qui ont pas mal réagi, nécessité d'équilibrer un peu entre responsabilité de l'État, mais également droit à l'information.
Je crois que le droit à l'information, c'est fondamental pour tous les pays, qu'ils soient en guerre ou qu'ils ne soient pas en guerre. L'information vraie, je pense, ça contribue à éduquer les citoyens. Mais par exemple, celui qui parlait du Togo tout à l'heure, j'étais étonné de voir le rapport du gouvernement cette semaine disant que au bout d'un an, il y a eu 31 morts. J'ai dit, mais attendez là, nous on était où? Pourquoi est-ce que toutes les attaques qui se passent dans le nord du Togo, ils n'en ont pas parlé quand ça a eu lieu? Ça, c'est la responsabilité du gouvernement du Togo. Les journalistes qui ne sont pas dans le nord n'ont pas accès à là-bas. On ne laisse pas y aller, la zone est quadrillée. C'est sous état d'urgence, donc on n'a pas accès à l'information là-bas. Mais quand le gouvernement décide d'agir de la sorte, on ne peut rien.
Voilà. Merci beaucoup, Idriss. Fin de cette émission. À votre avis, présentation Abdourahmane Dia. Mise en onde, réalisation Michel Joseph. Dans quelques instants, une autre édition du Monde aujourd'hui. Excellente écoute.